tellement creepy quand on fait ça. Là. Bienvenue à cette critique de Yugi, épisode du mois de mai. Je suis Yugi, votre animateur, votre critique, en compagnie de Bedu.
Bonjour.
Votre deuxième animateur, votre deuxième critique. Émission du mois de mai où on va présenter deux films puis une série télé qui sont disponibles sur, étrangement, trois plateformes différentes.
Écoute, donc, on est polyvalent de même.
Un petit peu de tout pour tous les goûts et pour tous les pour toute accessibilité.
Tous les abonnements.
Pas facile à dire comme mot, accessibilité.
Je l'ai dit deux fois.
Quand même, hein, c'est plus facile à dire que je pensais.
C'est bien fait.
On va parler du film Lift, qui est disponible sur Netflix, suivi de la série Fallout, disponible sur Prime Video. Et on finit avec le film Anyone But You, disponible sur Crave. Donc, on commence avec Lift. Je présente vite l'information générale de Lift, film de 2024, disponible sur Netflix. Hey, on a oublié quelque chose.
Oui.
Tu me laissais continuer. Incroyable. Oui. Mesdames et messieurs, vous êtes une plateforme numérique présentement en train de nous écouter. Vous êtes sur Spotify, vous êtes sur Google, vous êtes sur Apple, vous êtes sur Balado, vous êtes sur peu importe la plateforme sur laquelle vous nous avez trouvé et que vous nous écoutez présentement. Il y a un petit bouton qui s'appelle abonner. Cliquez sur le bouton abonner. Sinon, cliquez sur le bouton télécharger pour télécharger nos épisodes ou sinon, donnez-nous un rating d'étoiles s'il y en a. Ça nous aide vraiment beaucoup à aller essayer, du moins, d'aller chercher plus d'auditeurs et plus de visibilité sur les plateformes sur lesquelles vous nous écoutez présentement. Donc, merci beaucoup de le faire. Merci de l'avoir fait, c'est déjà fait. Sinon, on a une page Facebook qui se nomme
La critique de Yugi.
Très simple, allez sur Facebook, faites une recherche, trouvez notre page. Abonnez-vous à la page. Et surtout, partager nos publications, ça aussi, ça nous aide beaucoup à nous faire une petite publicité gratis, donc super gentil de le faire, voilà, c'est tout. Donc voilà, ok, j'étais donc, Lift, film 2024 sur Netflix, d'une durée d'à peu près 1h47 minutes.
J'aime bien le à peu près.
À peu près,
c'est ben,
assez précis. Parce que tu sais, ça dit 1h47, mais c'est 1h47 du générique à la fin,
oui.
Ou d'1h47 jusqu'à la fin du générique final, ou ça finit un petit peu avant, ça commence un petit peu après. C'est pas précis encore.
Ça inclut
tout le temps.
Toujours les crédits.
Ouais, mais calcule-le, puis ça arrive rarement au temps qu'ils disent, là. Je te garantis. Bref.
D'accord.
Tout ça pour ça, ça n'a pas d'importance. Réalisé par Gary Gray, qui a réalisé beaucoup de choses, dont, si je recule un petit peu en arrière, de Negotiator en 1998.
Ça recule beaucoup.
The Italian Job.
Oui.
En 2003. Sinon, plus récent, l'excellent Fate of the Furious en 2017. Je suis très sarcastique en disant l'excellent.
Okay. Parfait.
Suivi de l'autre très excellent, Men in Black International. Donc voilà, c'est ça.
Ah!
C'est le film avec Chris Hemsworth.
Oui!
Voilà, c'est ça. Ils sont à l'international.
Tessa Thompson.
Exactement.
D'accord. C'est ça.
Bon, bref. Gary Gray réalise le film Lift et c'est écrit par Daniel Kunka. Et la seule affaire que je reconnaissais de son portfolio, c'est le film 12 Rounds de 2009.
D'accord.
C'est tout. Donc voilà, c'est le scénariste. Hugo!
Oui?
Qu'est-ce que le film Lift?
Lift. Lift, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Cyrus.
Joué par Kevin Hart.
Ouais, qui a un groupe de voleurs,
oh,
un
oui.
peu. Ils vont voler des œuvres d'art, principalement.
Je considère pas comme des voleurs.
Non, c'est ça. C'est pas le Robin des Bois.
C'est similaire un peu. Genre.
C'est genre, on le vole s'il mérite de se le faire voler. Là.
Puis ils prennent de la valeur, donc on leur donne par la suite.
C'est ça.
C'est un petit peu leur principe de leur groupe.
Donc lui, il a son clan, et bon, il est recherché par Interpol. Donc, ils vont arriver, ils font un grand coup, ils volent une œuvre d'art et ils vont être sollicités par Interpol pour les aider à intercepter un chargement d'art qui va servir à empêcher une espèce d'attaque terroriste, dans le fond.
Ouais, genre.
Il y a un groupe terroriste qui veulent faire une attaque, ils sont payés en or parce que c'est pas traçable. Et là, Interpol dit, il y a juste vous autres qui êtes capables d'intercepter ça, donc on fait appel à vos services pour la bonne cause. C'est pas mal un
très bon résumé.
Hein?
Un très très bon résumé. On l'a mentionné, Cyrus est joué par Kevin Hart. Si parmi vous, il y en a qui ne savent pas encore qui est Kevin Hart, mais allez écouter les derniers films de Jumanji.
Oui.
Allez écouter Central Intelligence, écoutez Die Hard, que je crois que tu as critiqué il y a quelques
temps. Oui, mais ça, allez pas l'écouter.
Ah, ok, ça, faut pas l'écouter.
Non.
C'est aussi un humoriste américain.
Oui.
Un grand ami. Je dis grand, mais c'est très sarcastique parce que c'est pas un très grand
acteur, mais c'est un bon ami.
Pas de... un grand acteur, un grand être humain. Il est petit.
Il est petit.
mais c'est un grand ami de Dwayne The Rock Johnson.
C'est ça.
Sa mère en vedette également. Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Abby, qui est l'agent d'Interpol,
oui,
qui, on apprend, a eu une petite histoire d'amour avec Cyrus de 5 jours, 5 business days, comme ils aiment dire durant le film. Elle, on l'a déjà vu dans la série Loki. Elle jouait, oui, Judge Renslayer. On l'a vu également dans The Morning Show sur Apple.
Elle fait une performance extraordinaire dans The Morning Show. J'ai presque pleuré.
C'est vraiment une très bonne actrice.
Elle est vraiment bonne.
Ça met également en vedette Vincent D'Onofrio, sera au Comic-Con de Montréal. Et qui d'autre qui sera au Comic-Con de Montréal?
Ben, il y a un gros cast de Flash.
Ouais, mais il y a surtout la critique de Yugi.
Oui.
Ouais, voilà, c'est ça.
Nous.
Vincent D'Onofrio qui joue le rôle de Denton, qui est un genre de... Master in Disguise.
Oui, c'est ça.
C'est pas un excellent Master in Disguise, mais il se débrouille quand même bien.
Oui.
Lui, on l'a vu dans, il y a très longtemps, Men in Black. Il y a encore plus longtemps, Full Metal Jacket. Tout récemment dans la série Echo, ouais, de Marvel. Et la série Daredevil de Netflix Marvel.
C'est ça. C'est Kingpin.
C'est le Kingpin, voilà. Et également, ça permet d'être le très très grand Jean Reno, qui est un, oui, très grand acteur français, très connu et en Europe et aux États-Unis, qui joue le rôle du méchant Jorgensen. Mm. Encore une fois, si vous connaissez pas Jean Reno, vous êtes nouveau dans le monde dans le monde de l'écoute de films. Il a joué dans le film Ronin, dans le film Pink Panther avec Steve Martin, 22 Bullets, et mon Dieu que j'en pense.
Absolument.
Plein. C'est ceux-là qui m'ont sauté plus aux yeux quand je faisais ma recherche tout à l'heure. Film d'action. Un film d'action mélange parsemé de comédie, mm-hmm, quand même quelques bons gags,
oui,
quand même ri quelques fois. Est-ce que c'est un bon film d'action? Est-ce que c'est un film d'action qui fait waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un bon film d'action comme ça?
Mais moi là,
toi t'es diverti quand même assez facilement.
Oui, mais ma comparaison c'est Ocean Eleven.
Oui, en effet, j'ai fait des liens.
C'est ça. Donc, est-ce que
surtout la façon qu'ils nous présentent l'équipe, telle personne a tel rôle, un petit peu comme le film de Noël sur les enfants qu'on avait écouté également. Une parenthèse qu'on oublie immédiatement.
Oui, mais c'est vraiment un... Donc, est-ce que Ocean Eleven est un film d'action? Je ne pense pas.
Non, c'est pas vraiment un film d'action, Ocean Eleven.
Fait que c'est ça. Fait que c'est plus un... Bon, c'est dans le même genre. Donc, c'est un film d'action, il y a des scènes d'action, là. On le voit
surtout dans l'avion. Scène d'action se trouve dans l'avion.
C'est beaucoup la mise en œuvre de leur plan pour y arriver, puis tout. Fait que c'est comédie d'action, là, on veut.
Ouais. Je trouve que Kevin Hart joue quand même bien son rôle de chef d'équipe.
Mm-hmm.
Même quand, justement, sans trop rien divulgâcher, quand il ordonne, entre guillemets, à sa team de laisser faire. Donc, je trouve qu'il joue quand même un bon rôle de père ou de chef de famille, dans le fond.
Mm-hmm. Absolument. Sinon, ben c'est ça, comme je n'en ai parlé un peu, j'aime le fait que Kevin Hart joue pas le sombre imbécile.
Oui.
Il joue souvent, c'est le rôle qu'on va lui mettre dans Jumanji ou il avait fait un autre film avec The Rock, là, je me souviens pas c'était quoi.
Central Intelligence.
Okay, bon, c'est ça. Qui était un peu
ce film-là, il jouait
le comedic act.
Le comedic act, c'était l'ancien partenaire de l'école de The Rock qui finalement se retrouve dans l'histoire de.
Fait que dans le fond, j'ai aimé qu'il joue un rôle plus sérieux. Il y a des bouts comédie, mais c'est pas la risée du film. J'ai aimé l'humour intelligent un peu aussi à la Ocean Eleven.
Ouais.
Ça c'était bien. Chaque personnage aussi a son petit attrait.
Chacun apportait quelque chose. J'ai beaucoup aimé Monsieur Optimiste.
Oui, lui, pour lui, tout est chill.
Lui, il m'a vraiment fait rire.
Fait que, honnêtement, là, tu sais, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Dans ce qui m'a plu. Y a-tu d'autres choses que tu veux?
C'était pas mal ça aussi, le sentiment de camaraderie entre chaque personnage. Puis, les scènes découlaient bien les unes des autres. Il n'y avait pas de moment, il n'y avait pas de scène inutile, il n'y avait pas de over-acting, il n'y avait pas de over-story. Tout a sa place, tout a son instance, tout a sa raison. Je dirais que le seul, peut-être pas le seul, mais le gros point négatif, c'est le méchant. C'est le vilain. J'adore Jean Reno, mais on le voit honnêtement 3 fois dans le film. On le voit uniquement 3 fois dans le film. Un petit peu au début, une petite minute en plein milieu, puis vers la fin. Je trouve que le vilain manque beaucoup de présence. Ce qui m'a fait comme... oui, l'histoire est toute correcte, puis la raison de faire ce vol-là, c'est tout correct, mais le vilain a tellement pas de présence qu'à un moment donné, j'ai comme fait... J'ai l'impression que ça donne comme rien de faire ce qu'ils font, parce que j'avais aucun intérêt envers le vilain. Là.
Ouais, je comprends. Moi, le point plus négatif, ça a un peu un lien. Je trouve que le heist dans l'avion, tu sais... Puis tous les trucs qu'ils prennent pour y arriver, là, sans vraiment trop expliquer de détails, mais tu sais, ils vont essayer de camoufler l'avion, puis tout ça. Là, à un moment donné, je trouvais que c'était gros comme planning. Je comprends qu'ils veulent voler des lingots d'or, ça vaut de l'argent, mais je trouvais qu'à un moment donné, la faisabilité, ils poussaient l'enveloppe. Tu sais, on compare à d'autres films du genre, des Italian Job aussi, que j'avais adoré.
Ouais.
C'est plus simple un peu. C'est plus... Tu sais, il y a quand même un enchaînement, puis tout doit marcher. Mais tu sais, c'était plus simple au niveau de lui, là, Là, c'était comme, à un moment donné, ça semblait compliqué, les affaires.
Ils ont essayé de mettre peut-être un petit peu trop le paquet au niveau de l'avion.
Je pense qu'ils ont voulu... ça a compensé, ça a enterré le méchant. Le gros était mis sur le côté spectaculaire du cabriolage. Fait qu'on mettait de côté le méchant. Alors que si le méchant avait été plus méchant, il aurait fallu qu'il se casse un petit peu plus la tête. Puis il s'ajuste. Moi, c'est le petit point que je mettrais.
C'est un très bon point. excusez-moi. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire, mais clairement, c'était pas super important de toute façon. Y a-tu d'autres choses à dire sur Liff? On a pas parlé vraiment beaucoup à date, mais. Moi, j'ai été diverti.
Oui.
J'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. J'ai pas trouvé ça long. Ça s'écoute très, très bien.
Mais moi, je trouve que pour un film produit par Netflix, là, c'est fait. Souvent, ils vont couper dans certains coins. Soit au niveau des effets visuels, ou dans l'histoire, ou dans le casting. Il y a quand même un gros casting. L'histoire, ça va quand même bien. Puis les effets spéciaux... C'est bien aussi. Là, je trouve qu'ils ont vraiment... Sur certains films dernièrement, là, je trouve qu'ils ont repris un peu de poil à la bête Netflix. Ils avaient joué ça facile, mais la compétition est là. Prime produit beaucoup, Apple TV produit beaucoup. Fait qu'ils ont comme pas le choix de s'ajuster. Puis là, je trouve que c'est réussi.
Oui, en effet.
Fait que je vais leur donner ça.
En effet. Puis j'ai retrouvé le point dont je voulais parler, qui est un... Pour moi, qui était un autre point négatif. J'ai l'impression que c'est un... ce qu'on appelle en anglais un plot hole. Dans l'histoire, c'est le moment où on apprend que toute la gang se sont fait pogner au début du film. Après leur job du musée, on finit par apprendre qu'ils se sont tous fait pogner, mais ils ont comme, c'est comme arrivé un petit peu out of nowhere.
Ouais, il explique un peu, mais oui, je comprends.
Tu sais, il y en a un qui se fait capturer, puis ils jasent, puis ils comprennent une coupe d'affaires, mais 5 minutes après, Abby va voir Cyrus, puis dit on vous a pogné, on a toutes les preuves. Mais c'est comme sorti vraiment très rapidement de nulle part.
Ouais, ok.
Fait que ça, c'est pour ça que je dis qu'il y a un genre de plot hole. On dirait qu'il manque un petit quelque chose qui est à rajouter un petit 5 minutes pour nous montrer justement que, ok, oui, ils ont pogné.
Je comprends.
Il manquait ce petit bout-là qui m'a un petit peu gossé, mais c'est vite parti avec le risque. C'est très minime, là. Mais c'est un petit point négatif qu'il faut que j'apporte.
Ok.
Au niveau des notes, je pense qu'on est prêt à aller déjà sur les notes. Sur IMDb, 5.5 sur 10. C'est pas très haut, mais c'est pas très bas non plus pour IMDb. J'ai déjà vu des notes beaucoup plus basses que ça, mais c'est quand même bas.
Oui, c'est bas.
Je trouve qu'ils ont été sévères. Encore plus sévères sur Rotten Tomatoes. Sur les 70 critiques qui ont commenté, 29%. Et sur 1000 et plus reviews de l'audience, 32%.
Oh là, ouais.
C'est vraiment très très bas. Personnellement, je ne comprends pas ces notes-là parce que j'ai bien aimé Lift. C'est un bon divertissement. C'est un bon film de fin de soirée. Ben relax, avec du popcorn dans ton divan. Puis t'as du fun à écouter ce film-là.
Oui, je mets mon popcorn dans un plat, pas dans le divan. Ça sale.
Moi, je le mets dans le divan, c'est beaucoup plus le fun. Des fois, tu trouves des affaires que tu t'attends pas à trouver.
Oui, c'est sûr.
Tout ça pour dire, ma note à moi... moi, je donne un 7.5. Je trouve que c'est une note relativement bonne pour un film de ce calibre-là. C'est une note divertissante pour un film divertissant.
Oui, je vais y aller avec la même chose, 7.5. Mes attentes étaient d'être film de la comédie, d'être diverti.
Comédie d'action, genre. Donc,
ça l'a atteint mes attentes.
Oui, absolument.
Je m'attendais pas à une grosse histoire. Puis c'était bien correct. Non, ça. J'ai apprécié. Je le réécouterai.
Ouais, moi aussi, probablement. Donc voilà, 7.5 pour le film Lift sur Netflix. Si vous voulez l'écouter, honnêtement, allez-y. Si vous savez pas, si vous avez pas quoi écouter ce soir, gâtez-vous. C'est un très bon divertissement. Prochain sujet de cette critique du mois de mai, la série Fallout. Disponible sur Prime Video, série de 9 épisodes d'environ 1 heure chacun. C'est une série de 2024 qui n'est pas sortie sur Prime originalement. C'est sorti sur...
Paramount Plus.
Paramount Plus, exactement. Mais au Canada, Paramount Plus est un petit peu difficile à avoir. Donc, il fallait attendre. Sortie sur Prime d'une shot, les 9 épisodes d'un seul coup. De plus en plus, je pense que les sites de streaming recommencent à sortir la bonne vieille formule d'un épisode par semaine. Moi, pour bien des choses, j'aime mieux ça, parce que ça te permet de mieux apprécier la série,
de mieux la digérer
et de mieux l'absorber, puis d'avoir du plaisir à l'écouter, puis d'avoir hâte au prochain épisode, plutôt qu'une binge-watcher une série au grand complet en 2 jours, puis c'est fini, puis t'es super bon, t'es bien content, mais c'est déjà fini. Il faut que t'attendes un autre 2 ans avant d'avoir la suite de la série. Donc, moi, j'aime mieux la formule un épisode par semaine, mais il y en a que, je dirais, la plus jeune race humaine ont été habitués à des séries qui sortent d'un seul coup.
Ouais, mais nous, on est assez vieux pour avoir connu les séries.
Les séries télé à 8h. Oui, absolument.
Tu l'écoutes là, puis sinon, ben, tu l'as manqué. C'est ça. Tu l'enregistres sur ta cassette VHS.
Eh oui, voilà, on est vieux de même. Bref, série Fallout qui est tirée du jeu vidéo du même nom. Fallout, il y a eu Fallout 2, 3, 4, 76, New Vegas.
Il y en a un autre.
Non, c'est tout.
Il n'y avait pas un jeu
un jeu mobile, mais c'est ça, en tout cas. Oui. Donc voilà, tiré du jeu Fallout. L'histoire, grosso modo. En fait, je vais parler de la réalisation très rapidement, parce que c'est une série télé. On n'a jamais vraiment un seul gros réalisateur. On a Jonathan Nolan, qui a réalisé, je pense, 4 des 9 épisodes. Mm-hmm. Sinon, Claire Kilner, Fred E. O'Toy, Daryl Gray Longings et Wayne Yip. Mais Jonathan Nolan est un... principalement un scénariste. Il a réalisé quelques trucs, mais c'est surtout un scénariste, dont le scénariste de la série Westworld, qui fut une excellente série. Donc c'est un très bon scénariste. Et clairement, il a de très bons talents de réalisation.
Mais c'est génétique.
C'est génétique.
C'est le frère de
Christopher Nolan. Ben voilà, et quand on en apprend toutes des choses dans ce podcast.
C'est son frère.
Donc c'est le frère de... Ben écoute, donc, ma recherche, ça sonnait...
T'as pas allé jusque-là?
Mais non, ma recherche n'est pas allée jusque-là.
C'est son frère.
Donc voilà, donc très bonne réalisation. Oui. Je parle vite de la série Fallout et du jeu vidéo par la bande. La série, c'est une série post-apocalyptique. Donc on est dans un monde où, suivant la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu la bombe atomique sur Hiroshima, au lieu de faire... Mais quel instrument de guerre épouvantable et destructeur. cet univers parallèle-là, disons.
C'est une uchronie.
Ont plutôt vu ça comme, mais quel bel élément d'énergie pour nourrir la planète. Donc, ils ont utilisé le nucléaire pour créer de nouveaux modes mm-hmm. d'énergie, pour de nouvelles inventions. On est vraiment à ce moment-là, on devient complètement un monde différent. Et il y a une guerre éventuellement, et ils en ont profité pour envoyer des nukes partout sa planète. La planète au grand complet est rasée par le nucléaire. Mais on a la compagnie Vault Tech, qui eux avaient créé, avaient construit des bunkers pour justement essayer de sauver l'humanité. Donc il y a plein d'humains qui ont été envoyés dans ces bunkers-là. Et là, on se retrouve 100, 200 années plus tard,
oui.
où bien souvent le concept de Fallout, c'est qu'on est justement un résident de ces bunkers-là, qui pour une raison X doit sortir dans le monde réel et découvrir que ouais, le monde n'est pas si détruit que ça finalement, il y a de la vie qui existe encore. Il y a également de la nouvelle vie qui a été créée. Il y a beaucoup de mutants, il y a beaucoup de monstres. Mais l'humain survit. Et le personnage de ce vault-là doit affronter justement ce nouveau-là, ce nouveau monde-là rempli de difficultés, de raiders, de tueurs, etc. Et là, j'ai un chat qui s'amuse à jouer un petit peu sur mon rideau. Donc le jeu Fallout, c'est ça, et la série Fallout est très 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 représentatif de ce jeu. On a Lucie qui, pour une raison que je veux vraiment pas trop en divulgâcher, elle doit sortir vers le monde réel pour essayer de retrouver quelqu'un, et elle rencontre tout plein de personnages, dont Maximus, qui est un personnage qui fait partie d'une faction, d'un groupe qui s'appelle The Brotherhood of... J'ai envie de Brotherhood of Steel, mais j'ai comme un...
Je me souviens
pas. Fais-moi une petite recherche, me semble que c'est Brotherhood of Steel, mais je suis vraiment plus certain, j'ai un gap dans ma mémoire. Sinon, elle rencontre aussi The Ghoul, qui est joué par Walton Goggins.
C'est Brotherhood of Steel.
Brotherhood of Steel, voilà, ok. Donc, elle rencontre aussi The Ghoul, qui est un... Dans les jeux vidéo, c'est justement des gens qui ont survécu à l'attaque nucléaire il y a 100-200 ans, mais qui se sont transformés, qui ont eu des effets négatifs sur eux, et de par une certaine substance, réussissent à avoir une certaine qualité de vie, entre guillemets.
C'est comme des zombies.
Comme des zombies, exactement.
Mais pas vraiment des zombies, dans le fond.
Exactement.
C'est pas des morts vivants, ils sont victimes des radiations, puis leur corps est transformé. On le voit dans la balance, il n'y a pas de nez. Là, le nez, juste, on voit juste le cartilage. Puis c'est ça, il y a une substance qui fait qu'il lui permet de ne pas devenir un zombie.
Ce qu'on appelle un feral ghoul, donc vraiment une bébête beaucoup plus violente, beaucoup plus zombiesque, justement.
Mais
qui ne réfléchit plus, puis qui ne fait qu'agir selon son instinct animal. Bref, grosso modo... C'est ça le jeu Fallout, c'est ça la série Fallout. Donc on suit le personnage de Lucie à travers toutes ses péripéties dans ce nouveau monde apocalyptique. On parlait des acteurs. Lucie qui est jouée par Ella Purnell, qui fait beaucoup plus de voice acting que de l'acting. Elle a fait des voix dans la série Invincible. Elle fait la voix de Jinx dans la série Arcane, dont j'ai déjà parlé, j'ai tellement hâte à la saison 2. Elle fait une voix aussi dans Star Trek Prodigy. Sinon, elle a joué dans la série Yellow Jackets, ouais. qui a été également récompensée de plein de prix. On a également Aaron Morton, qui joue le rôle de Maximus. Pas fait grand-chose. Il a joué dans la série Next, qui me dit brièvement quelque chose, mais je suis pas allé plus en profondeur. Mais il a joué aussi dans le film Emancipation, qui met en vedette Will Smith, qui racontait justement l'émancipation de ce qu'il faut émanciper. Voilà. Je l'ai mentionné, Walton Goggins, qui joue le rôle de Cooper, a.k.a. The Ghoul. Lui, on l'a vu dans Hateful Eight, dans Predator, le film de 2010, pas les précédents avec Arnold, de la série The Shield. Plein d'autres choses également. Ouais, sa face est très méconnaissable.
Ouais, on le voit partout.
Ouais, c'est ça.
C'est pas un acteur principal vraiment, mais il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de second rôle.
Ouais. Ouais. On a également, j'en ai nommé deux autres parce que c'est des visages qu'on reconnaît, Sarita Choudhury, qui joue le rôle de Moldaver. Elle, on l'a vu dans Lady in the Water, dans également Hunger Games Mockingjay Part 2. Et on a Kyle MacLachlan, qui joue le rôle de Hank MacLean, qui joue le père de Lucy. Lui, on l'a vu dans la série Twin Peaks, dans le film original de Dune de 1984, et dans la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Bedu, tu n'avais probablement pas joué au jeu Fallout.
Je confirme que je n'ai pas joué.
Tu connaissais probablement un peu
oui. Le
jeu Fallout. Qu'as-tu pensé à ce moment-là de la série sans avoir joué au jeu préalablement?
C'est ça, c'est ce que je trouvais intéressant qu'on en parle, parce que moi, j'ai pas joué. Donc, je l'ai écouté comme étant une série télé dans un univers post-apocalyptique. Je ne cherchais pas ou je ne voyais pas les références à Fallout. La seule référence que je connaissais, c'est le principe des Vault Dwellers, ouais. Du Pip-Boy, qui ont une espèce de bracelet, ouais. De mini-ordinateur.
C'est un genre de cellulaire portatif.
C'est mais ça. Ça, je connaissais ça. Puis les grosses coquerelles géantes. Ça, ouais. Je me souviens de ça. Donc, je l'ai écouté comme ça. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai beaucoup de bonnes choses sur Fallout.
Oui.
Tu veux que je défile?
Vas-y, tout. Shoot.
L'interprétation des deux personnages principaux, qui sont Lucy et Cooper. Leur jeu est excellent.
Oui,
Ella Purnell, elle est tellement bonne dans son rôle. Attachante.
Oui.
Un peu naïf, parce qu'elle est née dans la vôtre.
Elle est née dans la naïveté.
Dans le fond, là, ce qui explique aussi, c'est que eux qui sont dans les vôtres, pour eux autres, il n'y a rien d'autre bord de la porte. Ouais. Tout est mort, il n'y a pas de civilisation. Puis un jour, ils vont sortir puis ils vont recréer l'humanité.
Ouais.
OK? Fait que ça, c'est leur vision. Fait que eux autres, ils font bien les choses à l'intérieur de la voûte pour des bonnes valeurs, etc. J'aime beaucoup le style parce que dans le fond, quand les attaques commencent, on est dans un univers années 50. Donc, on commence 50, 60, on commence la guerre froide, là, on s'en va vers là. Et là, après ça, tout le monde s'en va dans les voûtes. Donc, on est visuellement dans les années 50 avec les ouvre-boîtes électriques qui venaient de sortir, puis les toasters, puis le look vintage.
Quasiment une genre de technologie années 70-80, mais dans un look des années 50.
Mais c'est ça, c'est l'affaire aussi, c'est que le côté justement de l'énergie nucléaire pour le bienfait de tout le monde, eux autres, ils l'ont utilisé pour ça, ils ont développé une ville, parce qu'on le voit dans le premier épisode, des gratte-ciels, tout ça, mais tout le monde est habillé avec la musique des vieilles télés des années 50, tout ça. Fait que ça, j'ai trouvé visuellement le look est vraiment bien. La musique, c'est
la musique très bonne,
hein. Extraordinaire. Ouais. C'est des classiques, une trame vraiment reconnaissable, ça c'est tout le long de
tout le temps au bon moment, il y a tout le temps une bonne tune bien placée pour la bonne situation,
c'est vraiment 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 bien. Ensuite de ça, visuellement les maquillages, c'est bien fait, surtout pour le goal, mais il y a d'autres créatures aussi, c'est vraiment bien fait, on n'est pas en CGI, on a pris le temps de bien faire les choses. On est souvent critique par rapport à ça, on n'a pas pris de raccourci. Je l'apprécie. Oui. Il y a quand même un côté gore, sanglant.
Ouais, mais pas. Non, mais je l'ai pas trouvé excessif.
Non, mais c'est assez.
Oui.
C'est visuel.
Certains ralentis de grosses balles qui traversent quelqu'un. Tu sais,
exactement. Ça fait des trous bord en bord, puis des doigts manquants, puis des affaires de même. Tu fais, ok, ouais, il y a quand même. Tu sais, c'est pas public général.
Non, tu veux pas écouter ça à tes enfants.
C'est ça. Fait que ça, puis ça m'amène à un point que tu as nommé un peu, mais au niveau visuel, les plans séquences, les plans au ralenti aussi.
Ouais.
Il y a beaucoup de ralenti, c'est bien tourné. Je pense que la signature de Jonathan Nolan est poursuivie. Puis c'est lui, je pense qu'il réalise les trois ou les quatre premiers épisodes, puis après ça, ça change. Mais ça s'est bien continué dans la lignée.
Ouais. Tu sais, les ralentis sont pas comme superflus.
Non.
Tu sais, les ralentis ont,
d'une
certaine sens, une raison pour qu'ils soient là.
Tu sais, t'as la musique comme happy qui joue en arrière-plan, puis t'as un ralenti.
De violence extrême. Hein.
Ouais, c'est vraiment, là, c'est bien fait, c'est bien pensé. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Moi, j'ai recommencé une deuxième écoute.
OK.
Parce que je l'écoute avec mon épouse, parce qu'elle, elle l'a pas écouté. On a écouté l'épisode 1 ensemble. Parce que je disais, ah, tu écoutes ça, tu vas aimer ça. Et là, on... à une deuxième écoute, là, ça place des affaires plus tard, tu dis.
Oui.
Ils en ont parlé.
Ce qu'on apprend plus tard, quand tu la réécoutes. Ah, ben oui, en effet.
Parce que moi, je sais pas comment ça allait finir quand j'ai commencé. Puis là, ils placent des trucs, tu fais. Ok, oui, ah, ça.
Oui.
Ah, ok, c'est là qu'il parle de ça. Puis c'est lui, il en parle. On va le rencontrer plus tard, mais là, on sait pas c'est qui.
Oui.
Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis tout l'imaginaire là, d'espèce de côté technologique, mais dans un vintage, il va y avoir des robots, il va y avoir des trucs comme ça. Tu fais, ok, c'est vraiment bien pensé.
Ah, puis les robots, j'ai beaucoup aimé le fait que. Dans la série, il y a souvent des flashbacks à le temps qu'avant la guerre. Et on rencontre un personnage éventuellement. Puis le personnage, il parle en anglais, évidemment. J'écoute sa voix. Je dis, t'as peu, on l'a vu, ce personnage-là, dans la série, mais dans un autre rôle. Et à un moment donné, je fais lien. Ah, c'est la voix du robot!
C'était le personnage.
C'est la personne qui a fait la voix pour les robots du futur. Je fais, et il y a plein de liens comme ça qui sont le fun à faire.
C'est je lisais un peu des critiques qui parlaient de la série Fallout. Là. Et on l'a déjà nommé, mais dans les adaptations de jeux vidéo, c'est rarement bien fait. Je pense que c'est ce qui avait été mieux. Dans les mieux faits, c'était. Voyons. Je veux te le dire.
The Last of Us,
exactement. Et Fallout est dans la même ligne.
Oui, absolument.
J'ai fait une critique de Silo sur le podcast. On est un peu dans la même lignée que Silo, où est-ce qu'ils vivent sous terre, tout ça. Mais c'est beaucoup moins sombre. Fallout, il y a beaucoup, beaucoup d'action à l'extérieur. Oui. Ce qui fait que j'ai retrouvé certaines, je veux dire, ressemblances, oui, mais beaucoup plus plaisant, moins sombre.
Ouais.
Donc, j'ai vraiment le Fallout. Moi, de ce que j'ai lu, à moins que tu me dises le contraire, il n'y a pas beaucoup de références directes au jeu. On est on fait des liens d'entreprise, mais il n'y a pas de personnages.
Au niveau des personnages, non.
C'est ça.
Mais il y a beaucoup de liens.
Ouais, c'est juste, mais il n'y a pas de personnages qu'on retrouve.
Non, c'est vraiment des personnages qu'on a. Ben, De Gaulle.
Oui.
De Gaulle, je suis pas mal sûr qu'on l'a vu dans d'autres jeux. Même si on a vu d'autres Gaulle, mais lui. En principe, là, en tant que tel, je pense qu'on l'a déjà vu dans un autre, je pourrais pas dire lequel. Okay. Mais je sais que je suis pas mal certain qu'on l'a vu dans dans un autre jeu. Point de vue de quelqu'un qui a pas nécessairement joué au jeu. J'ai joué un peu à Fallout 4. Mais je connais très bien le jeu, le concept. Je suis même allé faire beaucoup de lectures au niveau du jeu, au niveau de tout ce qu'on voit puis de tous les éléments clés qui apparaissent dans la série. Le principe de Shandy Sands,
oui,
qui est la grosse ville qu'on a beaucoup de références à travers les différents jeux comme étant la ville qui a la ville des survivants, la ville qui la nouvelle ville, la nouvelle république, c'est l'avenir justement du nouveau monde. Et on apprend ce qui est arrivé. Je veux vraiment rien dire, vous le gâcher, mais il arrive quelque chose et tu fais comme oh ok, waouh, sont allés là. Les fans de jeux vidéo ont adoré. Dernière scène de la série,
oui, ça, je savais.
On voit New Vegas. Donc encore là, oh wow, ok, on s'en va là aussi.
Confirmé saison 2 là, déjà.
Ouais, c'est ça, la saison 2 est déjà confirmée. Je pense que les amateurs du jeu ont adoré la série justement parce que c'est tissé directement du jeu vidéo. C'est pas juste on fait une série pour parler du jeu, c'est vraiment une série qui rentre dans l'histoire des jeux vidéo, du jeu en tant que tel.
C'est comme si on était un autre vote.
Exactement. Et on apprend énormément de choses à propos des votes qu'on n'apprend pas dans les jeux.
Qu'on ne connaissait pas.
Je savais qu'il y avait différentes votes pour différentes fonctions, pour différentes raisons. Mais ce qu'on apprend à propos de Voltec dans la série, j'ai fait « Oh! » Oh, ok, ok. Là, on vient de changer beaucoup de choses. Là, on vient d'apporter une dimension supplémentaire, non seulement à la série, mais à tous les jeux qui ont précédé également. Je pense que le monde, puis je l'ai lu beaucoup sur Internet, à quel point la popularité du jeu a skyrocketé très rapidement avec la sortie de cette série-là. Les fans sont retournés jouer au jeu. Et je pense que ça, ça a beaucoup, ça a un très gros lien, puis ça l'a apporté beaucoup de visibilité et de... Okay. Ok, non, je vais retourner jouer parce que maintenant, j'ai des affaires que je savais pas. Là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Très rapidement, je parle du timeline des jeux et où la série se situe dans tout ça. On a... Et là, je parle pas de l'ordre dans lequel les jeux sont sortis, mais on a Fallout 76, qui est dans le timeline le tout premier. De tous les jeux Fallout, là, c'est dans le timeline, c'est le premier, c'est la première histoire. Okay. On a ensuite Fallout 1, Fallout 2, Fallout 3, Fallout New Vegas et Fallout 4 qui se passe, lui, outre-mer. Fallout 4 se déroule dans l'ancienne Grande-Bretagne. Donc, de 76 à New Vegas, on était aux États-Unis. Fallout 4, on est allé ailleurs, mais il y a énormément de références en lien avec Fallout 4, principalement Brotherhood of Steel. Il y a un gros easter egg, je le dévoilerai pas là, parce que je veux pas primer les joueurs, les fans du jeu qui ont revu la série, mais il y a un gros easter egg par rapport au Brotherhood of Steel en lien avec Fallout 4. Donc chose que je pense que c'est vraiment quelque chose qui a vraiment beaucoup 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 apporté et que les joueurs, les fans du jeu ont vraiment beaucoup aimé. J'ai eu le commentaire de quelqu'un qui a commencé la série et qui, après l'épisode 3, me dit « On dirait que je suis pas sûr si j'ai envie de continuer. Je suis pas sûr si j'aime ça. »
OK.
Et je lui ai demandé « Connaissais-tu le jeu? » Je dis « Ben un peu, mais pas plus. » Je dis « Mon conseil, écoute l'épisode 4, parce que je trouve que l'intrigue commence vraiment à se construire à partir de l'épisode 4. » En lien avec le Vault en tant que tel et le frère de Lucie qui commence à découvrir des affaires.
Ouais.
Je trouve que l'intrigue commence vraiment beaucoup à devenir hyper intéressante à partir de l'épisode 4. Je dois admettre que l'épisode 3, moi je l'ai pas aimé. J'ai dit ok, là en effet je commence à avoir peut-être la même réaction que la personne qui m'en a parlé. Je vais-tu continuer? Mais dès que j'ai commencé l'épisode 4, j'ai fait oh ok, non, là on s'en va quelque part. Donc je pense que souvent il y a du monde qui sont t'es toi-même quelqu'un de ce genre-là, quand t'écoutes une série puis qu'après 2-3 épisodes, tu fais je suis pas sûr, souvent les personnes décrochent.
Ouais, si après 3 épisodes, j'ai rien apprécié, je vais arrêter.
C'est ça. Mais là, honnêtement, j'y ai conseillé. Je ne sais pas si la personne a continué de l'écouter.
Ouais, je comprends.
Mais pour ceux qui ont peut-être de la misère avec les premiers épisodes, lâchez pas prise. Allez jusqu'au bout. Honnêtement, je pense que vous ne serez pas déçus. C'est vraiment... C'est une belle histoire. Veux, veux pas. C'est une très belle histoire dans un monde apocalyptique. On s'attache aux personnages. On s'attache à ce qu'ils font. Même si je trouve que le personnage de Maximus est le pire des crétins au monde.
Oui.
Mon Dieu, que je le trouve con. Il reste attachant, puis tu veux quand même voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui dans saison 2, puis comment il va se démerder de ça. Donc moi, j'ai beaucoup aimé Fallout. Voilà. Allons-y avec les notes, parce que je pense qu'on a parlé beaucoup pour Fallout.
Ouais.
IMDb, 8.5 sur 10. Très bonne note pour un site comme IMDb. Rotten Tomatoes, ils nous ont pas donné le nombre de reviews pour les critiques, ni le nombre de reviews pour l'audience, mais 93% au niveau des critiques. 89% au niveau de l'audience. Très bonne note également pour Rotten Tomatoes. C'est pas des notes parfaites, mais que les critiques donnent 93 pour une série télé tirée d'un jeu vidéo, c'est quand même beaucoup.
Oui.
Souvent, les critiques sont très critiques justement à ce niveau-là. Je pense qu'ils ont vraiment beaucoup apprécié ce qui a été fait pour cette série-là. Ma note à moi, c'est un 9.5. J'ai adoré cette série, comme tu l'as dit, dans la même lignée que The Last of Us. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. J'ai très très hâte à la saison 2. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, puis comment ils vont amener la continuité du jeu. Il y a un Fallout 5 qui est annoncé. Est-ce que le Fallout 5 va suivre la série? Est-ce que ça va être dans un autre timeline, dans un autre moment clé? On le sait pas encore, mais c'est sûr que la série va avoir un impact sur Fallout 5. Donc moi, j'ai vraiment très hâte à la saison 2.
un mini commentaire avant de donner ma note.
Chou.
Avez-vous entendu parler de la du doublage québécois de Fallout?
Oui, j'en ai entendu parler.
J'ai écouté les extraits, c'est horrible.
Ouais, je suis pas allé jusque-là parce que j'avais peur justement.
J'ai écouté les extraits, c'est horrible.
Ouais.
Fait que vraiment, écoutez la version originale anglaise, quitte à le sous-titrer, là.
Ouais.
Parce que c'est vraiment, vraiment. C'était vraiment, bon.
C'est ça.
Petite tranche.
J'avais lu les commentaires aussi, puis je dans un sens, ça m'a même pas. Ben, ça m'a peut-être surpris un peu, parce que d'habitude, au Québec, on est bon pour le doublage.
Mais on n'est pas en français international.
Mais c'est ça.
Là, on a des sacs.
C'est ça.
Puis on a des. Ça, moi, du coup, je suis pas un fan de vulgarité.
Non, c'est ça.
Puis inutile, puis c'était comme non.
La majorité des séries aussi qui ont été traduites en pur québécois. Ben souvent, j'ai fait « Ah non! »
Moi, à part Slapshot, là, ça va
pas. Ouais, c'est ça, mais tu sais, Slapshot, c'était un film pour ça.
Ouais.
Mais
c'est meilleur en québécois qu'en anglais.
J'ai un autre film qui me revient pas, qui avait été traduit en pur québécois, puis avec des sacres, puis des expressions purement québécoises, puis ça fitait pas.
Ouais, il y avait les Transformers, il y en avait
deux. Ah, aussi, ouais, il y a ça. Ah, ouais, ça, c'était... Ben, c'est ça, voilà.
Ben, c'est ça. Mais moi, je donne un 9 sur 10. C'est très, très bon.
Ouais.
Je trouve que les épisodes sont un peu longs. Des fois, on est à 1h15, ouais. Certains épisodes. Je trouve ça un petit peu long. Au pire, là, c'est 8 épisodes.
9 épisodes.
Moi, j'ai 8. 9, parce qu'il a annoncé que saison 2, épisode 1, mais qui n'est pas tourné.
Ah, ok, oui, ça fait presque bien de sens.
C'est 8 épisodes. J'aurais peut-être fait, au pire, un découpage différent, puis peut-être fait 9 ou 10 épisodes.
Ouais, peut-être justement couper un petit peu dans le gras de l'épisode 1, 2, 3.
Ouais.
Qui prenait un petit peu de temps à avancer l'histoire.
Fait que c'est sûr, c'est pour ça que je donne un 9. Là, et ça, ils mettent en place, là, mais. Fait que 9 sur 10, c'est très très
bien. Ouais, c'est très legit.
Il n'y a pas grand chose qu'on a écouté dans la main qui valait ça.
Non, en effet.
Donc, allez-y gaiement.
Ouais, vraiment, un 9.25 sur 10 pour la série Fallout disponible sur Prime Vidéo. Je pense que c'est une plateforme très accessible, donc honnêtement, lancez-vous dans cette série-là.
Si vous reteniez parce que vous n'aviez pas joué au jeu, moi je l'ai pas joué, puis j'ai adoré. Fait que allez-y.
Au pire, faites une petite recherche, allez sur c'est quoi le IGN. On va faire un petit tour sur IGN, tapez Fallout, lisez juste un petit peu sur la série puis sur l'histoire en général. Ça devrait justement vous permettre de peut-être mieux comprendre et mieux apprécier ce qui se passe au début. Parce que quelqu'un qui connaît pas ça puis qui voit ce qui se passe au début fait comme oh wow, mais c'est weird. C'est weird. Tu sais, justement, on en parlait, le principe, on est années 70, 80, 90, mais dans une ambiance des années 50.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, c'est possible de pas trop comprendre pourquoi, puis de manquer ce petit bout-là que c'est à cause du nucléaire. C'est possible de dire, ouais, non, c'est vraiment weird. Mais, honnêtement, allez lire un petit peu ou faites comme Buddy est en train de faire, faites une deuxième réécoute des épisodes, puis honnêtement, je pense que vous allez être pleinement satisfait de cette série. On passe au deuxième film de cette critique du mois de mai. Film romantique, comédie romantique, qui est disponible actuellement sur Crave. Un film de 2023, donc quand même, beaucoup de monde avait parlé au moment de sa sortie.
Surtout dans le temps des fêtes.
C'est sorti durant le temps des fêtes. Un film d'une heure 43, Anyone But You. N'importe qui sauf toi.
Alors, moi?
J'ai pas traduit les autres, hein, c'est vrai. Hein? Lift.
Ouais, eux autres, ben, quand ils disent lift, c'est faire un
vol.
Ils font un vol, ils disent on peut pas lifter telle affaire. Ça n'a pas de lien avec l'avion, mais c'est vraiment le vol. Mais l'autre, faire l'autre, retomber.
Retomber, voilà, c'est ça. Bref. Anyone But You. Comédie romantique disponible sur Crave.
Oui.
Réalisé par Will Gluck, qui a réalisé des films comme Peter Rabbit, Friends with Benefits, ainsi que AZA, donc quand même plusieurs, à part Peter Rabbit, là, mais quand même plusieurs comédies romantiques à son portfolio. Ça a été écrit également par Ilana Wolpert, qui est à sa première scénarisation de film. C'est son premier film qu'elle scénarise. Elle a par contre scénarisé beaucoup d'épisodes de la série High School Musical, qui est une série très connue, surtout aux États-Unis, d'une école secondaire et du... C'est une série musicale, comme tous les films comédie musicale qu'on connaît, mais en version série. Donc, c'est écrit par elle. Les acteurs, les actrices, Sydney Sweeney joue le rôle de Béatrice, Béa, et comme tu peux le voir, j'ai mis tout plein de petits cœurs à côté du nom de Sydney Sweeney. Mon Dieu, qu'elle est adorable, je ne parle pas juste de son physique, elle a des yeux, mon Dieu, à faire tomber n'importe qui. Sydney Sweeney a joué dans la série Euphoria, qui est une très grosse série, très appréciée. Elle a joué dans également The Handmaid's Tale. Elle a joué dans le film tout récent d'horreur Immaculate, ainsi que dans le médiocre Madame Web, dont on a fait la critique il n'y a pas très longtemps. Ça m'a amené également Glenn Powell, qui joue le rôle de Ben. Donc on a Ben et Bea. J'ai trouvé ça un petit peu facile en matière de prénom de personnage. Glenn Powell, qu'on a vu surtout dans la série Scream Queens, qui était une série de slashers d'horreur.
Ouais, j'avais pas
aimé ça. J'avais quand même bien aimé, moi également. Et il a joué récemment dans le film, Top Gun Maverick.
Ouais,
donc la suite de Top Gun.
C'est là que je reconnaissais.
Voilà, donc Glenn Powell et Sydney Sweeney sont les deux acteurs principaux dont l'histoire tourne autour. Plusieurs autres acteurs également, mais les plus connus, il y a Michelle Hurd qui joue la mère de la fille dont la sœur du personnage de Sydney Sweeney, Marie.
C'est ça.
Voilà. Elle a joué dans la série Blind Spot, dans la série Star Trek Picard, ainsi que dans la série Law and Order Special Victims Unit. On a également Darren Bennett, qui joue Jonathan, qui joue l'ex-fiancé du personnage de Sydney Sweeney, qu'on a vu dans tout récemment le film Gran Turismo, tout récemment encore le film Roadhouse, qui est une reprise du classique Roadhouse, ainsi que la série qu'on a souvent parlé, Never Have I Ever,
oui.
Qui est une très bonne série. Et mention également pour Dermot Mulroney, qui joue le père justement de Sydney Sweeney, qu'on a vu dans My Best Friend's Wedding, des années 90 avec Julia Roberts, encore plus loin Young Guns avec Emilio Estevez, très récemment le film Lights Out ainsi que Scream 6, pour n'en nommer que vraiment quelques-uns. Vous allez reconnaître son visage quand vous allez le voir. Bedu, qu'est-ce que le film Anyone But You?
Bon, c'est l'histoire de Bea qui est une jeune femme.
Jeune étudiante en,
ouais, en droit,
en droit,
elle
mais
se questionne sur sa vie. Ouais. Elle va faire la rencontre fortuite de Ben dans un café. Finalement, ils vont passer la journée ensemble.
Même la nuit ensemble, sans même coucher ensemble.
Non, ils vont juste ensemble.
Jaser, puis ils s'endorment ensemble. C'est super cute.
C'est vraiment cute. Le lendemain matin, elle s'en va
incognito.
Sauve, elle quitte.
Mais ils s'en rencontrent.
Puis, c'est ça. Et là, elle va comme regretter, elle revient d'abord. Elle dit, ah non, faut vraiment, il était vraiment extraordinaire, j'ai jamais vécu ça. Quand elle arrive, elle l'entend lui parler à son meilleur ami, qui dit, ah non.
C'est une folle, elle a des problèmes.
Des problèmes,
dit-il, d'un coup de frustration de s'être faite abandonner là tout seul, parce qu'il s'en est rendu compte qu'elle s'est éclipsée, ça l'a mis en.
Ouais, puis aussi, il veut peut-être pas dire à son ami qu'il a trouvé bien intéressant.
Aussi.
Fait que là, tu fais, ah, ok. Et là, plus tard, ça c'est le bout où j'ai manqué quand je l'ai écouté.
6 mois plus tard.
Je l'ai comme pas remarqué.
Ouais, c'est écrit tout petit à mon
avis. Tu le vois pas.
Mais ça arrive souvent durant le film, puis j'ai remarqué, souvent il y a comme une écriture décrite pour nous expliquer un petit peu la prochaine scène.
Ouais.
Puis ça, je l'ai remarqué, à un moment donné, dans le sable, il y a de quoi d'écrit. Je dis, pourquoi il y a de quoi d'écrit là?
Oui,
ah, ok, c'est parce qu'il m'explique qu'est-ce qui s'en vient. Puis j'ai remarqué que ça arrive souvent durant le film.
Fait que là, 6 mois plus tard, ce qui arrive, c'est la. Le reste de l'intrigue tourne autour de deux personnages qui sont Hallie puis Claudia qui vont se marier. Hallie, c'est la sœur de Bea. Puis Claudia, c'est la sœur du meilleur ami de Ben, dans le fond. Et là, ils vont arriver à la même place, dans le même bar. « Hey, gars, je te présente ma sœur Bea. » Et là, ils se rendent compte qu'ils se sont, c'est eux autres, ils se sont déjà vus.
Ils
se détestent, mais ils doivent tous aller au même mariage en Australie. Et ils doivent. Ils s'en vont au même mariage. Ils n'ont pas l'intention d'être. De, 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 de se fréquenter rien. C'est comme, mon gars, on n'a pas le choix, c'est ton ami, c'est ma soeur, on y va, puis on se parle pas.
Mais leur haine fait en sorte que les deux futurs mariés ont peur que c'est leur ça. Mariage soit ruiné.
Ils se mettent dans le trouble à force de s'aider.
Ils organisent une sorte de on va tout faire pour essayer de matcher pour que finalement ils libèrent leur frustration puis que ça aille mieux puis qu'on ait un beau mariage.
Puis là, eux autres, Béa et Ben vont dire « Ok, ben gars, on va embarquer dans le jeu, on va faire semblant d'être ensemble, comme ça. Ils vont nous sacrer patience. Ouais. » On a deux jours à faire, puis après ça, on s'en va chacun de notre côté.
Voilà, mais comme tout bon film d'amour.
Ouais. Mais c'est ça.
Les sentiments embarquent et tout le reste du film s'en
va. T'as l'ex de Béa qui arrive, t'as l'ex de Ben qui est là aussi. Puis là, la remise en question, blablabla. Ouais. Fait que ça, c'est.
On tombe vraiment là, dans le classique comédie romantique.
Ouais, exactement.
Vous savez, je ne suis pas un très très grand fan. De comédie romantique, simplement parce que je trouve tellement que c'est toujours du pareil au même, c'est tout le temps les mêmes ingrédients et le même mode de cuisson pour chacun des comédies romantiques. Belle analogie que je viens de faire, je suis quand même fait de moi.
De toute beauté.
Donc, c'est pas le genre de film que j'écoute fréquemment, mais j'avais entendu quand même des bons commentaires sur le film, et bon, on ne s'enchante pas trop quoi écouter pour notre critique. On a fait, bon, il y a ça qui vient de sortir, ok, on l'écoute. Et j'ai quand même été surpris. Je n'ai honnêtement pas détesté. Il y a des points que j'ai trouvé un peu trop cucu, mais d'ordre général... j'ai apprécié la majorité des scènes. Les scènes se suivaient bien, mais l'histoire en général est sympathique. Et j'ai trouvé que c'est un film d'amour qui est probablement agréable à écouter avec son conjoint ou sa conjointe. Je pense que c'est un film d'amour qui peut être très facilement appréciable. Je pense. T'as pas l'air sûr.
Ben. Je trouve que, dans plusieurs égards, c'est mal joué dans plusieurs personnages. Le personnage de l'ami là, de Ben. Là,
oui, mais... Ouais, mais...
Je sais pas c'est quoi son nom du gars.
Gugu quelque chose, je pense.
Pete, l'acteur s'appelle Gata.
Gata, c'est ça.
Bon, mais Pete, c'est ça marche pas pantoute. Le personnage de Beau aussi, qui est l'espèce de Chris...
Le surfeur,
il est... Tu sais, c'est comme, hey, bon boy, OK?
Mais ces scènes sont quand même drôles.
Ouais, mais tu sais, c'est comme...
C'est le bout de dans la douche où il se divertit complètement tout en jasant bien casuellement avec ouais, Ben. Ouais. C'est quand même sympathique.
Ouais, ouais. Mais tu sais... Oui, mais... C'était correct. Je trouve que... Comment je dirais ça? L'histoire, l'idée, donc, qu'ils se sont rencontrés, le mariage, doit... Mais je trouve que l'espèce de... bout où ils saillissent, ils essaient de matcher, puis là, où est-ce qu'on en vient pour dire, ah oui, ok, ben finalement, on va embarquer dans le jeu, puis on... C'est tellement pas crédible, c'est mal joué, le bout,
Mais je pense que, honnêtement, je pense que c'était voulu.
Ben moi, j'ai pas accroché, parce que...
Je pense que c'était ça, le but, de montrer à quel point ils sont tellement awkward à jouer ce rôle-là, à jouer ce jeu-là, puis qu'ils l'ont pas. Je pense que c'est ça qui amenait un certain côté humoristique, entre très grosses guillemets.
Ben, gars, c'est ça. Mais moi, j'ai pas trop ça. Alors, je t'explique. Si on vit, toi et moi, cette situation-là, puis on dit, on va faire qu'on est un couple, on va être moins awkward.
Ouais, parce qu'on se connaît.
Oui, mais
je pense qu'il y a deux personnes qui se connaissent pas du tout, puis qui ont même un certain ressentiment, puis qui disent on va jouer le jeu. Je pense que oui, ils vont être awkward, puis ils vont mal le jouer.
Ah, mais quand ils.
Fait que je pense que leur jeu de mal le jouer était voulu. Je pense.
Mais je suis pas d'accord avec toi. Oui. Parce que être sur le bord d'une falaise, à regarder un paysage, puis dire on va, ok, oui, on va faire comme si on était ensemble, il y a personne dans la vie qui pogne les fesses d'un gars comme ça, de même. Tu sais, Money, c'est pas.
Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi, la scène du pognage de fesses.
Mais ce bout-là, là, le bout en quoi.
Celle-là était un peu over the top, là.
Mais c'est pas. Il y a dans la vie, tu vas pas
non, je te
faire ça, même avec quelqu'un que tu connais pas. Tu dis, hey, on va jouer, on va faire un couple. Je vais te prendre par la taille, ou les épaules, je vais te flatter une fesse, mais je vais pas. t'as massé en dessous de ton linge, ça marchait pas. J'étais comme, non.
Je suis d'accord, mais est-ce que ça serait pas pour démontrer que entre les deux, il y a une certaine tension palpable sexuelle?
Mais moi, si...
Que les deux sont... les deux, tu le sens que les deux se veulent, mais ils se l'avouent pas. Puis que là, il en arrive peut-être justement à profiter pour...
Wow.
Je vais tâter le terrain.
Ouais, attends. Tu te retrouves sur le bord d'une falaise avec Sidney Sweeney, là, puis tu vas pas la taponner
non,
de main.
Non, absolument.
Même pas. Si
même Glenn Powell, qui est un très bel homme.
Tu le taponnerais pas
de main. Ben non, si c'est ça. N'importe quelle fille, non, mais... froid comme ça, tu taillis puis tu joues le rôle. Non, en effet, tu vas pas crisser ta main dans ses culottes pour y pogner les fesses puis y pincer.
Ben, c'est comme. Parce que c'est ça. C'est juste que j'étais comme. Le bout où il essaie de faire
ce bout-là, je suis d'accord. Je pense que c'est. Le bout de la falaise puis du pognage de fesses. Ça, je donne.
Même le bout, tout ce qui entoure leur espèce de tentative d'essayer. C'est comme trop awkward pour que ça soit crédible. Parce qu'après ça, là.
Je me disais que c'était probablement ça qui était voulu.
Ouais, mais moi, j'ai pas acheté ça.
Okay.
J'y croyais pas que c'était voulu.
Bon. Okay. Mais est-ce que t'as apprécié autre chose du film?
Ou
ça t'a tellement tenu off
non,
que
non.
T'as fait un zip.
Ça fait baisser ma note. Je l'ai écouté complet, c'était correct. Tu sais, film d'amour, moi ça me dérange pas. Là. Moi, tu es un très bon public pour bien des affaires. C'était correct. Tu sais, je veux dire, le principe en général, je l'ai écouté, ça, c'est correct. Là.
Ben, comme je dis, ça reste. On dit, ça reste un film d'amour, ça reste une comédie romantique, ça reste les mêmes ingrédients, ça reste la même façon de présenter le film.
Ouais, j'avais peut-être espoir qu'il y ait d'autres choses.
Le côté, tu sais, oui, l'idée de deux personnes qui s'haïssent, puis qui sont pognées ensemble, puis qui finissent par partir des sentiments, puis tomber amoureuse, c'est du déjà vu. On l'a déjà vu dans plein d'autres comédies romantiques. C'est rien de nouveau, c'est rien d'original. Mais la majorité des comédies romantiques sont comme ça. Il y a très peu d'originalité dans nos comédies romantiques
d'il y a plusieurs années. On l'a déjà nommé.
On en a quelques-unes, mais d'ordre général.
Ah non, on réinvente plus rien.
On réinvente plus rien, tu sais. Faut écouter ce type de film-là avec ça en tête de « Je m'attends pas du tout à ce que ce film-là soit extraordinaire. »
Moi, je pense, on en parle, puis je pense que ce qui m'a dérangé, c'est je trouve qu'ils saillissent trop pour ce qui s'est passé.
C'est vrai qu'ils saillissent beaucoup pour le peu de ce qui s'est passé.
Il s'est passé, ils ont dormi, tu sais, ils se trouvaient bien cute, ils ont mangé un grilled cheese, puis ils ont dormi en cuillère habillée. Elle la sauve parce qu'elle a un second guess.
Ouais.
Lui, il dit à son ami que c'est une folle, mais ils saillissent donc bien.
Dès qu'ils se revoient dans le bar, ça se traite de bitch, puis de fuckboy, puis de salopard, puis comme wow!
Mais c'est ça mon affaire, je trouve qu'ils saillissent trop pour ce qui s'est passé. C'est pour ça que l'espèce de toute la suite de ça, l'aspect de demi-heure de transition là-dedans fait que j'ai comme pas accroché parce que je ne sentais pas l'émotion. J'y croyais pas. Ni à leur haine, ni à leur tentative de cute. Parce que plus tard, quand ils vont se rapprocher, puis tout ça, ça va, j'y crois, puis ils développent des sentiments l'un pour l'autre, ça va. Mais le bout où ils saillissent, je trouve qu'ils saillissent trop.
Ouais.
C'est ça qui m'a.
Ah ouais.
À force d'en parler, là, c'est là-dessus que je vais mettre le doigt.
Non, non, je te donne ça là, puis je suis d'accord avec toi aussi. Ce n'est pas la découverte de l'année, ce n'est pas la découverte des dernières années non plus.
Non, mais tu sais, c'était nouveau, ça vient de sortir, puis on avait entendu beaucoup parler quand même dans les médias, fait que je me disais ça vaudrait la peine, juste pareil, parce que ça vient de sortir cette semaine.
Ouais, puis ils pensent faire un Anyone But You 2. J'ai vu des rumeurs comme quoi, étant donné qu'il y a eu quand même de bons résultats au box-office, ils pensent à faire une suite à ça. Écoute, on verra, ça va probablement être encore une fois la même formule des mêmes comédies romantiques, mais Hollywood fait ce que Hollywood fait, c'est on reprend ce qui est réchauffé,
des remakes,
ce qui est fait, on le réchauffe, puis c'est ça. Je pense pas qu'il y ait vraiment grand chose d'autre à dire, c'est une comédie romantique, si vous êtes fan de comédie romantique, allez-y, vous allez sûrement aimer ça. Si vous avez envie d'un petit film cucu, sympathique à écouter avec votre conjointe en fin de soirée, puis être bien collé, ben why not, écoutez ça aussi. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses de mieux, mais si vous n'avez pas envie de chercher le midi à 14h, essayez-le.
Ah, c'est beau, là, les paysages sont en Australie.
C'est très très beau. J'ai quand même aimé les personnages, même si tu dis c'est mal joué, moi je pense
pas que c'est mal joué, parce que je pense que c'est de même que la réalisation voulait qu'il joue. Donc je considère pas que c'est nécessairement mal joué, mais oui, la façon que c'est apporté est peut-être mal apporté.
Mm-hmm.
Mais c'est très très beau visuellement. Les notes sur IMDb, 6.2 sur 10. C'est une note générale pour IMDb. C'est étrangement plus haut que Lift.
Mais c'est sur Rotten.
Mais
aussi,
j'ai préféré Lift.
Ouais.
Sur Rotten Tomatoes, les critiques donnent 55% sur à peu près 105 reviews. Mais le public semble vraiment beaucoup avoir apprécié. Puis ça se démontre aussi avec les chiffres du box-office. 87% pour l'audience avec plus de 1000 reviews. Je pense que il est allé probablement chercher son public cible.
Oui.
Puis public cible a aimé. Puis c'est le public cible qui est allé commenter également. Oui. Puis comme je dis, ça reflète ce que le box-office a apporté aussi pour ce film-là. C'est pour ça que j'avais envie de l'écouter aussi, parce que justement, il y avait eu des bonnes recettes. Puis il y avait eu des bons commentaires. Fait que ça doit pas être si mauvais que ça.
C'est pas si mauvais que ça,
mais ma note à moi, c'est un 6.5. J'ai apprécié, j'ai aimé, j'ai trouvé ça sympathique, mais vraiment sans plus. Si un 2, probablement que je vais écouter le 2, mais qui sort sur les plateformes, juste parce que c'est Sidney Sweeney. Mais même si ça serait probable, probablement que je l'écouterais probablement aussi. C'est sympathique, j'ai pas haï. Oui, il y a des points négatifs, il y a des points qui clochent. Oui, c'est une comédie romantique très classique, mais ça a fait la job. Moi, en venant de travailler, écouter ça, ça a mis mon cerveau à off, ça m'a détendu, puis mm-hmm. Voilà. 6.5.
C'est bien.
Vas-y.
Je vais donner 6.
Ben, écoute.
Ça passe.
Voilà.
C'est ça.
On s'entend pas à grand-chose, puis on n'a pas nécessairement grand-chose. On a ce qu'on s'attend.
J'ai préféré Lift, là. C'est sûr.
Oui, moi aussi, j'ai préféré Lift, honnêtement. Okay. Là, c'était plus divertissant. Mais tu sais, ceux qui aiment les comédies romantiques, je pense, vont apprécier No One But You pareil.
Oui, ouais, 6.5.
Ben voilà.
Regarde.
6.5. Il réveille sa note pour un 6.5, mesdames et messieurs.
Ça va.
Pour Anyone But You, disponible sur Crave.
Oui.
Donc voilà, ça fait le tour de ce qu'on voulait vous parler pour ce mois-ci. Lift sur Netflix, Fallout sur Prime Video et Anyone But You sur Crave. J'espère que vous avez apprécié ce dont on vous a parlé. J'espère qu'on vous a donné le goût d'aller écouter ce qu'on vous a présenté, ou à la limite qu'on vous a fait fuir. D'un sens comme de l'autre, notre but c'est vraiment juste de vous donner nous ce qu'on pense de ce dont on vous parle et peut-être vous sauver du temps à la recherche. De quoi écouter, parce qu'il y a du stock en s'il vous plaît sur les sites de streaming.
Oui.
Et c'est pas tout le temps du bon stock. Donc, on peut passer plusieurs minutes à chercher quoi écouter puis trouver quelque chose. Ah, je vais écouter ça puis faire ah, mon Dieu, que c'est plate. Fait qu'on vous sauve ce temps-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller sur nos pages, de vous abonner et de partager pour qu'on aille chercher, qu'on aille aider d'autres gens justement à s'éviter du temps. Bedu, merci d'avoir été là.
Mm-hmm.
Prochaine capsule express du mois de mai aux alentours du 10, suivi de la tienne aux alentours du 20.
Oui.
Absolument aucune espèce d'idée de quoi je vais parler pour la mienne du 10. Je ne sais vraiment pas. Je trouve qu'il y a tellement pas grand chose encore de sortie actuellement. On va faire le tour, on va trouver quelque chose comme d'habitude.
Ben, moi, le 20, je vais vous parler de Rebel Moon.
Part 2.
Part 2 qui est sorti, mm-hmm. vient de sortir. Je vais l'écouter.
Parce que t'avais écouté Part 1, ça que.
Ouais, c'est ça, je vais faire la suite. Puis dans ma critique, c'est sûr que moi, ma note était en fonction de voir la suite.
Mm-hmm.
Je me souvenais, là, je vais même la réécouter là, de ce que j'avais dit exactement, mais je sais que ma note était pas très haute en fonction de. Il nous manque beaucoup d'informations pour la suite. Fait que je vais comme critiquer globalement. Fait que je vais parler de ça et peut-être de d'autres choses en même temps. Mais Rebel Moon, Scargaver, je vais en glisser un mot là, pour l'épisode du 20.
Et moi, ce sera une capsule surprise pour le...
Même pour toi.
Le 10 mai, même pour moi, voilà. Donc, merci d'avoir été là. N'oubliez pas d'aller cliquer sur abonner, télécharger et partager la bonne nouvelle sur notre page Facebook, également la critique de Yugi. Et là-dessus, on vous laisse à vos écoutes ou à vos jeux. Et on se revoit la prochaine fois pour une autre critique de Yugi. Merci tout le monde. À la prochaine.
Au revoir.